un caillou dans la chaussure.
Il a toujours dessiné. Il est architecte de formation. Il a œuvré en tant que graphiste, puis il a été directeur de collection aux éditions du Rouergue de 1994 à 2001. Période pendant laquelle il a joué le rôle de découvreur d'auteurs au gré des rencontres qu'il a choisies en toute liberté. Détail qui a son importance. Période aussi pendant laquelle il a publié des albums dont il est auteur et illustrateur en toute complicité. Autre détail qui a son importance. En tout, il est à l'origine de plus d'une soixantaine d'albums jeunesse, remarqués pour leur côté novateur dans le paysage des livres pour enfants. Le format carré, c'est grâce à lui. Mais surtout, le contenu de ses livres et des auteurs qu'il a révélés ont contribué à poser une marque de fabrique dans les années 90, à jamais. Aujourd'hui, au fil de la reconnaissance du réseau d'amis et des affinités qu'il s'est tissé, il est toujours un auteur aussi libre et créatif. Ses derniers titres ont paru aux éditions Memo, notamment, aux éditions de l'Ampoule, et il est aussi scénographe. J'ai le grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui, Olivier Douzou, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder ce temps d'échange en vue de vous entendre sur ce qui vous anime, le pourquoi, le comment vous créez des albums jeunesse avec des textes et des images si originaux, truffés de bonnes surprises, de tendresse, de poésie, d'humour, et qui surtout, me semble-t-il, révèlent un rapport très fort et affectueux à l'enfance. Alors, peut-être que ma question est d'emblée un peu trop grande, j'avais envie de vous demander qu'est-ce que l'enfance, mais Olivier Douzou, je vous propose de laisser courir cette question en filigrane et de chercher quelques indices dans votre expérience de vie, votre parcours et bien entendu quelques-uns de vos livres. Alors, il en est un qui est tout indiqué, j'avais envie de commencer par Play, qui est sorti en 2007 aux éditions Memo, à l'occasion du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, édition pour laquelle vous étiez scénographe, vous avez monté une exposition au titre éponyme avec des complices depuis les éditions du Rouergue, avec Frédéric Bertrand, Nathalie Fortier, alors attention je risque de l'écorcher, Jochen Gerner, José Parandeau, etc. et j'en oublie, autour du thème du jeu. Et donc pour revenir à votre livre, dans Play, on entre de plein pied dans... ce qui a constitué votre enfance, l'univers des jouets et des jeux. C'est une sorte d'inventaire en mots et en images de vos jouets rassemblés que vous avez daigné ranger dans un livre. Et j'y vois là un indice prépondérant dans votre travail artistique. Les jouets et le jeu, ce sont les pièces maîtresses de l'enfance, Olivier Douzou.
Cette exposition m'a beaucoup interrogé parce que moi c'était une carte blanche que me proposait le Salon du Livre de Montreuil et j'avais vraiment envie de situer le livre dans le monde du jeu en fait pour enfants avec ses propres règles du jeu, ses propres codes de lecture et ses propres fonctionnements. Donc moi c'est vrai que c'est un peu curieux en fait cet événement parce que Sylvie Vassallo qui m'a confié cette exposition m'a fait faire un travail artistique dessus, de direction artistique et de scénographe, mais elle m'a demandé si j'avais jamais écrit sur le jeu et là je lui ai dit mais si en fait donc ça c'était en cours de montage d'expo, j'ai un livre sur lequel je travaille depuis 5-6 ans quoi. Ça s'appelait Play à l'époque, mm-hmm. Et qui n'était absolument pas abouti, c'est l'exposition qui m'a fait qui m'a fait accoucher de ce livre qui était destiné finalement à être travaillé et retravaillé en permanence. Donc le jeu pour moi c'est vrai qu'il est présent et c'est vraiment le souvenir de l'enfance. Hein. L'enfance pour moi est liée au jeu de la découverte, au jeu de découverte des règles du jeu, le jeu de l'apprentissage. Il me semble que quand on est enfant on joue. On doit jouer pour découvrir tout ce qu'on a à découvrir.
Et on simule le futur adulte qu'on va pouvoir être à travers les jeux.
Oui, parce que moi, j'ai abordé ce titre, cet ouvrage-là et l'expo comme un jeu de construction, en fait. Et je pense que le jeu, même de construction, participe forcément à la construction de l'individu. Donc moi, c'est vrai que c'est un inventaire, mais en même temps, je me dis, en regardant tous les jeux que j'ai redessinés ou redécouvert, mon jeu, si vous voulez, c'était de les réveiller à nouveau, de réveiller en moi L'enfant, c'est vrai que je me dis que le trait commun entre mon enfance et mon activité, c'est le jeu.
D'accord.
J'ai envie de jouer. Et quand je fais des livres, j'invente des règles du jeu aussi. J'invente de nouveaux jeux. Et c'est pour ça, moi, c'est pour ça que le livre me plaît tant, quoi. Cet univers d'invention et de nouveauté.
Alors, si vous réveillez le jeu, le plaisir du jeu en vous, moi j'ai l'impression que vous avez. C'est un livre qui parle à toute une génération de parents. J'ai l'impression que vous réveillez en nous aussi nos propres souvenirs de jeu. Par exemple, mettre des cartons sur les rayons du vélo pour simuler le bruit du moteur. Les petites voitures, Majorette et nos rêves, par exemple. La voiture à pédales, les Lego, les mécanos, des jeux qui encore courent aujourd'hui. Les cartons du loto avec les haricots. Oui, ça j'avais oublié. Le jeu des sept familles, les mille bornes, les circuits. Et mine de rien, vous jouez donc avec notre perception d'adulte, la perception des lecteurs, adultes qui, nous aussi, on a aussi acheté certains de ces jeux-là à nos enfants. On a aussi perpétué ça. Donc ce sont des clins d'œil à notre propre enfance et ça nous propose de partager ça aussi avec les enfants. Donc ce sont des livres qui finalement constituent un espace de rencontre entre les parents et les enfants.
Les livres, les albums en général.
Oui, d'une manière générale. Bon, plus particulièrement celui-ci par rapport au jeu. Mais oui, d'une manière générale, quelle est votre conception du livre ?
Celui-là, je ne pense pas Enfin, peut-être les enfants peuvent s'y reconnaître, mais si vous voulez, ce livre Play, il était fait juste pour montrer tout ce qui se passait entre l'écart entre l'adulte et l'enfant. Par exemple, quand vous faites référence à beaucoup de jeux, moi, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est le Monopoly qui donne des valeurs à des couleurs et qui donne aussi des couleurs à des rues dans Paris, qui donne une forme à Paris. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont relativement persistantes. Et ça, c'est, je pense que c'est plus voir comment montrer avec ce livre-là comment finalement tout ça c'est persistant et toute cette mécanique du jeu a forcément encore aujourd'hui des traces, laisse encore aujourd'hui des traces dans notre manière de percevoir les formes, les couleurs, les odeurs, tout un univers de sensations. En ce qui concerne les albums, moi c'est évident aussi que j'ai toujours imaginé que c'était une zone de rencontre entre l'adulte et l'enfant. Ne serait-ce que parce que l'adulte choisit pour les enfants et l'adulte aussi doit être mis en scène parce que tout participe au jeu. C'est le jeu de découvrir, c'est le jeu de relire différemment un livre, c'est le jeu aussi, le jeu d'acteur de l'adulte et d'acteur de l'enfant qu'on met en scène. C'est des espaces qui mettent en scène en fait les lecteurs.
Alors, en même temps que ce livre Play, l'exposition donc qui a lieu à Montreuil révèle aussi un autre trait de vous, de votre démarche artistique, puisque c'était un rassemblement d'amis et de complices, des liens amicaux qui se sont tissés, et ce depuis votre rôle en tant que directeur de collection aux éditions du Rouergue. Donc, au départ, juste pour faire un petit bond en arrière, comment les aviez-vous choisis ? Comment aviez-vous travaillé ? Comment avez-vous trouvé et eu envie de faire découvrir ces nouveaux auteurs à l'époque ?
Là, c'était très simple. J'ai absolument fait aucune démarche pour aller rencontrer des gens. J'ai attendu qu'il y ait la mécanique traditionnelle de l'édition, c'est-à-dire qu'un auteur manifeste l'intérêt pour une maison d'édition et envie de faire un livre ici et pas ailleurs. Puis voilà, j'ai pas voulu prendre mon téléphone et contacter des gens comme Nathalie Fortier qui sont arrivés très tard aux éditions du Rouergue, mais dont je connaissais parfaitement le travail et avec qui j'avais envie de travailler. Ça s'est passé aussi avec Kitty Crowther, dont je connaissais parfaitement le travail, avec qui j'avais envie de travailler, mais qui m'a jamais envoyé de projet, donc qui a jamais eu de projet aux éditions du Rouergue. Donc voilà, après c'est des rencontres, c'est des gens qui étaient enthousiastes et qui avaient envie de faire quelque chose de nouveau. Après, moi, je me rends compte avec la distance que chacun avait un petit quelque chose, avait quelque chose qui me correspondait aussi. C'est-à-dire que quand je travaillais avec Parondo, pour moi, c'était l'absurde que je pouvais utiliser un degré moindre dans mes ouvrages qu'il développait complètement, où Johann Gerner avait un côté plus conceptuel, on va dire, qui était beaucoup plus poussé que moi. En fait, c'est pour moi, c'est des gens qui étaient complètement, enfin, qui étaient complémentaires. Et donc, ça fait effectivement une petite famille, comme ça. Christian Bolt, c'était plus bricoleur.
Oui.
Donc, voilà, c'est... C'est des rencontres de gens, je crois, au bon moment, et puis avec des gens qui m'envoyaient Christian Wolff, son manuscrit, par exemple, est arrivé par la poste, Linda Corazza, pareil. Après, d'autres gens m'envoyaient des images, des bouts d'histoire, des amorces de projets, je travaillais avec eux après. La rencontre était faite, après je pouvais travailler avec eux.
Donc en fait, en même temps, ils vous ressemblent et ils sont complémentaires.
Oui, on se ressemble, on est un peu différents, mais en même temps, quand on fait une expo comme ça, intuitivement, ils ont chacun une partition qui est différente et qui complète la précédente et la suivante, quoi. Donc c'est pas par hasard, je crois. Je crois que c'était aussi une période, c'était aussi un espace dans l'édition qui était peut-être nécessaire, qui était attendu et qui présentait un intérêt pour les auteurs. Mais il y avait, je crois, 2000 projets qui arrivaient par an. Moi, je sélectionnais, enfin, je regardais, j'avais envie d'en faire qu'une dizaine. Je n'ai jamais fait une course, une grande course au nombre de publications aussi par an. Donc voilà, il n'y avait pas énormément de place non plus.
Oui. Donc c'était au rythme des rencontres, un rythme absolument pas imposé. Les livres sortaient quand ils étaient mûrs, quand c'était le bon moment.
Voilà, oui. Jusqu'au moment où... où il y a eu beaucoup trop, à mon avis, de projets, de demandes de projets, d'éditions. Moi, après, c'est vrai que mon départ du Rouergue, ça a été surtout, outre certains désaccords, c'était sur un peu ce formatage du livre. Et puis
cette pression
était... Ah ouais, ça donnait une pression. Mm-hmm. Et puis bon, moi aussi, j'avais l'impression que c'était en bout de cycle, parce que... je voyais à l'époque revenir des projets qui ressemblaient à ceux d'autres auteurs. Et là, je me disais que quand on avait la deuxième couche, ça me tentait plus tellement, quoi.
D'accord. Donc, alors, depuis, je le disais en introduction, une soixantaine d'ouvrages. Donc, vous avez débuté avec le gros succès Jojo Lamache, et puis ça a suivi Mono le Cyclope, Yo-Yo l'Ascenseur, et puis d'autres titres qui révèlent tout autant votre sensibilité au monde à partager avec des lecteurs. Donc, on n'a pas le temps de parler de tous. J'imagine que chaque ouvrage donc, a sa petite histoire de naissance, son temps de gestation. Mais ce que j'avais envie juste de mettre peut-être un petit peu en avance, et tout de même il y a des thèmes qui vous sont sensibles, par exemple j'aime bien le rapport d'échelle entre l'enfant et l'adulte, le rapport de taille, le temps, la météo, par exemple vous avez inventé la République du Vent, si on vivait dans un pays qui s'appellerait la République du Vent, et alors là votre imaginaire explose.
Ouais, ben moi tout était, enfin, je sais pas. En fait, ça rejoint une question qu'on me pose souvent, c'est d'où vient l'inspiration. J'en sais absolument rien.
Oui, mais c'est une sensibilité poétique au monde, en fait. C'était un peu ça, que entre la taille, le temps, les saisons, la météo, les nuages, il y a ça dans vos livres. Il n'y a pas que ça, mais c'est une espèce de coussin, on va dire, de support, je trouve.
Ça, je pense que c'est un coussin qui a aussi les couleurs de la liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui fait qu'il y a une prise sur la météo, personne, sur le ciel et sur les nuages non plus. Et comme le livre, ça reste quand même des espaces très rares, incontrôlés, incontrôlables, et qui appartiennent à tout le monde et à personne. Donc je trouve que c'est... quand on fait un livre, on travaille avec ces ingrédients-là, mais qui sont plus intérieurs.
D'accord.
C'est peut-être compliqué ce que je dis.
Oui, non, pas du tout, mais j'aime bien le lien avec la liberté aussi. C'est un de votre traits, je pense, de caractère et de manière de fonctionner, et qui du coup, ben, voilà, permet tout à fait la créativité, quoi, tout simplement.
Ouais, c'est un moteur, la liberté, parce que ça permet l'inattendu, et quand on fait des livres, je pense que les gens, ils ont envie d'avoir quelque chose... un espace qui est nouveau. Je pense que c'est vrai pour les adultes, c'est vrai aussi pour les enfants. Ils ont envie de découvrir quelque chose qui n'existait pas avant et qui a un sens, en fait. Mmh. Il y a une raison d'exister aujourd'hui. Mmh.
Et qui, du coup, invite à détourner le regard ou à aborder les choses d'une autre manière ou par un autre biais.
Voilà, c'est ça. On donne des angles.
Voilà.
C'est la magie du livre. C'est pour ça que moi, j'aime le livre. Déjà, on le voit une fois, on le reparcourt. Et moi, j'étais toujours quand même très admiratif du livre, surtout quand mes gamins prenaient toujours le même ouvrage. Connaissant parfaitement la fin et faire comme en peinture ce qui s'appelle les néo-primitifs, qui font semblant d'oublier qu'ils ont...
Oui.
Ils savent.
Pour revivre l'émotion.
Pour revivre, ouais, c'est une émotion en fait.
Donc vos livres traitent aussi du quotidien, je cite La famille Citron, La ferme, Debout, ça c'est dans les tout petits formats, collection 12-12 aux éditions du Rouergue. Moi j'aime beaucoup aussi cette vitalité, cette représentation de la famille et de l'enfance. C'est drôle et en même temps tout à fait pertinent puisque ça s'inscrit dans des réalités sociales dans lesquelles on vit tous.
Le quotidien, c'est vrai que moi j'avais... J'étais un peu lassé de toutes les histoires qui commençaient par « Il était une fois » parce que c'était un moyen de nous amener, de mettre un flou devant pour nous faire passer autre chose. Mais c'est vrai que ça a été très vite dans l'hyper quotidien avec par exemple des livres comme « Les petits bonshommes sur le carreau » ou « Livre dans le frigo » de Frédéric Bertrand. Moi j'aimais bien ça, avoir justement... donner une image, enfin raconter l'histoire via des angles du très quotidien, quoi. Ça a été comme ça. Après, je peux vous dire que ça a complètement évolué.
Oui.
Après, j'ai été très attiré par le « Il était une fois », justement.
Oui, on va y revenir. Alors, juste pour terminer, citer encore quelques titres, les plus récents, donc aux éditions Mémo, « Lucie, la petite abeille qui dort le jour et butine la nuit », pour rentrer peut-être un peu plus dans certains de vos ouvrages. Donc, Lucie, contrairement à toutes ses congénères de la ruche, elle dort le jour et elle butine la nuit, mais elle récolte le nec plus ultra des pollens pour un miel exceptionnel, le miel de fleur de lune. Donc Bruno a bien de la chance, il est magnifique ce livre-là. Vous pouvez nous raconter un peu des petites choses qui vont autour avec ?
Choses qui vont autour et que personne ne voit, mais bon, c'est
oui.
Après il y a des petits moteurs. Au départ, c'est la chanson des Beatles, Lucy in the Sky. Et donc ça, c'est pour ça qu'elle s'appelle Lucy, mais vous savez, quand on fait des histoires, des fois on retombe complètement sur nos pattes, parce que Lucy, c'est la lumière, forcément.
Oui.
Comme Bruno, c'est l'ours brun, mais c'est la nuit.
Oui.
Donc voilà, je suis parti de là, en fait, et pour raconter cette histoire de... d'ouvrières qui, au lieu de partir à l'horizontale comme toutes les ouvrières, quand c'est planifié, elle part à la verticale. Pour moi, là aussi, la verticale, c'est la liberté. Mmh. Voilà.
Bon, Mick le hérisson n'a pas trop le temps de s'attarder. Il en a assez qu'on lui offre des cactus. Il voudrait un ballon, mais c'est pas très adapté à sa condition de hérisson.
Ça, c'est un livre pour tout petit.
Ouais.
Et c'est l'inverse de ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire que les enfants, ils veulent tout ce qui est acéré, tout ce qui pique, tout ce qui leur a été interdit, c'est tout ce qui est finalement agressif en termes de forme. Et là, j'ai pris le contre-pied de ces interdictions avec un petit hérisson qui ne doit pas avoir de ballon, naturellement, quoi.
Alors, et puis un jour, vous étiez enrubé, donc vous avez inventé une histoire et vous l'avez dessinée, Le Nez, paru aux éditions Mémo, qui d'ailleurs a obtenu le prix Baobab en novembre 2006, décerné par le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Alors, Le Nez est enrubé, il est à la recherche du grand bouchoir.
Oui, ça a commencé. Oui, c'est dur, j'en parle encore l'autre jour. Ce livre-là, je crois que c'est le premier qui me fait sourire quand je le relis, en me disant, mais enfin, c'est... Là aussi, c'est quand même quelque chose, c'est aussi une règle du jeu, cet ouvrage-là, forcément. Et un livre écrit avec le nez bouché et avec tous les mots qui sont déformés. Là, il y a une autre référence, c'est le sergent Poivre, qui est le sergent Pepper. C'est la suite, en fait, du même album des Beatles. Mmh. Mais c'est pas fait... pas fait intentionnellement, ça aussi, c'est des suites qui apparaissent comme ça entre, d'un livre à l'autre. Cette histoire-là, moi, c'est un peu, on va dire, oulipien comme fonctionnement. En fait, c'est un défi que je me donne au départ, de raconter l'histoire de Gogol, qui a été écrite par Gogol, ou un certain sergent Kovalyov, qui perd son nez un matin, et moi j'imagine le parcours de ce nez pour finir comme Gogol avec la même fin. Donc ça, c'est un exercice de style, on va dire. Mais bon, après, en même temps, il y a plein de références aussi dans ce bouquin-là. Parce que ça, c'est pour moi, c'est faire un livre, c'est mettre plein de tiroirs, et puis chacun ouvre celui qui l'intéresse, quoi.
Donc en fait, ce sont des livres aussi qui sont pas forcément donnés d'emblée, qui sont tellement riches que en fait tout le plaisir de les lire et de les relire, c'est de c'est de faire à nouveau des découvertes à chaque fois avec des indices, avec des détails, avec des formes qu'on voit pas forcément lors de la première lecture. Donc c'est toujours plein de surprises.
Ben oui, en l'occurrence celui-ci. J'ai eu quelques doutes en l'envoyant, en me disant c'est pas un livre qui est forcément fait pour les enfants, parce qu'il y a aussi certaines références. Donc je me disais, l'éditeur va peut-être me dire oui, c'est ça, mais vous savez, quand on est là, j'étais co-auteur, hein, c'était auprès des éditions Mémon, je devais le présenter de toute manière en priorité à cet éditeur-là, et j'étais vraiment pas sûr de sa réponse. Puis finalement, vous voyez, la trajectoire du livre, c'est... Il est imprimé, il est sélectionné dans les 50 albums de l'année, je ne me rappelle plus quelle année, 2006.
Oui.
Puis il a le prix, finalement, le prix de l'album le plus original de l'année.
Oui.
Ce qui est vraiment, pour moi, c'est ce qui m'a le plus touché, c'est le prix de l'album original. Parce que ça faisait quand même 15 ans après mon premier livre. Donc c'était... la vraie reconnaissance,
c'est là. Quoi. Oui, c'est le critère le plus valorisant pour vous.
Oui, ça correspondait aussi à la trajectoire que j'aimais bien, un peu en zigzag, ou même quand c'était aux éditions du Rouergue, on fidélisait aussi les gens par l'attente qu'ils avaient de quelque chose de nouveau, chaque fois. Okay. Et je trouvais ça vraiment intéressant qu'on ne soit pas sûr, qu'on ne réponde pas convenablement à ce que les gens attendaient d'un éditeur.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il était une fois, ça vous ennuyait, mais finalement, les contes, donc qui font partie du patrimoine, finalement, ça vous intéresse aussi. J'aurais voulu glisser sur Pierre et le Lours aux éditions Mémo. C'est un livre qui se lit avec en fond sonore la voix de Gérard Philippe et les instruments de Pierre et le Loup et de Prokofiev. Enfin, en tout cas, moi, quand je lis ce livre, j'entends tout ça, toute cette bande sonore. Donc, je rectifie, hein, le livre n'a pas de CD. Mais c'est là, vous venez chercher notre imaginaire, donc ça oblige à connaître déjà Pierre et le Loup au préalable. Qu'est-ce qui a motivé cette aventure de revisiter Pierre et le Loup avec Frédéric Bertrand, je précise?
Là, dans les défis qu'on se donne avec Frédéric, donc, on avait fait un livre qui s'appelait Le Conte du Prince en deux.
Oui.
Et c'était vraiment un conte. Et là, on racontait vraiment comment, avec un conte, on pouvait évoquer des choses finalement assez lourdes, sous des couverts assez légers et un peu incohérents. Et donc, j'étais à Marseille avec Frédéric Bertrand, et c'est dans un café de Marseille qu'est née cette histoire. On s'est dit, ben moi, en fait, je lui ai dit, moi j'ai un titre, j'aimerais bien partir de Pierre et le Loup, et faire Pierre et le Lours, et raconter un peu, sans la musique, donc ça, c'était un peu le challenge, en fait, c'était de dire ben, la dimension nouvelle, elle est dans votre esprit. Enfin, la dimension pas nouvelle, la dimension qui est connue. Et ensuite, on avait aussi vraiment envie de démontrer toutes les impossibilités spatiales de l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, au départ, Pierre traverse des montagnes, des forêts, et je ne sais pas quoi encore, pour atteindre l'arbre. Et à la fin, l'arbre, il touche le mur.
Oui. Il y a un déplacement.
Donc on a tout joué sur le déplacement graphique dans l'histoire. Et bon, le fait que le grand-père qui est maçon dans l'œuvre originale devienne maçon, ça nous a aidé quand même à construire des murs pour approcher la maison de l'arbre. Après, voilà, après, nous on voulait aussi travailler quand même sur pas mal sur l'absurde, sur les limites du livre aussi. Et sur C'est un peu compliqué en fait dans la construction, mais c'était un petit défi qu'on s'était donné pour raconter quelque chose qui était connu vraiment sous une autre forme, de lui donner une autre manière, un autre angle de vue aussi.
Donc là, c'est pas forcément pour les tout-petits. Justement, il faut que les enfants aient pris le temps de connaître Pierre et le loup pour pouvoir savourer ce livre-là.
Oui, un peu comme tous les livres, je pense.
Oui.
On part de leur connaissance aussi, quoi.
Alors, Olivier Douzeau, vos livres sont une sorte de déclaration d'amour à l'enfance, au regard sur le monde en toute liberté, à l'amitié, à la vie d'une manière générale. Et ce monde de l'enfance qui n'est pas, donc, me semble-t-il, à vos yeux, un monde à part. L'adulte est pétri d'enfance, les frontières sont réellement poreuses. Est-ce que, d'après vous, ignorer l'enfance, c'est s'ignorer soi-même ? Est-ce que être adulte, c'est toujours être en train de grandir ?
Moi, je crois que, alors, je sais pas si je vais vraiment répondre à votre question. Moi, ce qui me manque de l'enfance, c'est que, je trouve qu'on est en perpétuel éveil, et éveil devant l'inconnu, devant la nouveauté. Et je trouve que là, on est dans le monde adulte a trop tendance à devenir très paresseux très vite, et très très saturé finalement. Moi, je me suis beaucoup interrogé pourquoi je ne fais pas des livres pour adultes et tout ça, pourquoi. Moi, il y a l'idée déjà du jeu que les enfants, auquel les enfants se prêtent plus facilement, mais en ce qui concerne l'image même, je trouve que les enfants sont forcément curieux de la nouveauté. Donc ils cherchent, donc ils sont complètement éveillés devant une image.
Et on perdrait ça à l'âge adulte ?
Ah, on est un peu endormi à l'âge adulte. On préfère les images qui bougent devant nos yeux que d'aller se promener dans les images. Et je pense qu'on perd aussi nécessité quand on est enfant de se frotter tout le temps à des choses qui sont nouvelles, qui sont finalement l'apprentissage de la vie, quoi.
Alors Olivier Douzeau, vous faites des livres moins fréquemment, c'est peut-être que vous avez élargi votre champ d'action, vous vous consacrez aussi à la scénographie, et le Muse aussi, c'est encore une aventure collective. Quelles sont les nouvelles du Muse ? Je vous rappelle qu'on en a parlé dans cette émission, c'est Claude Ponty qui nous l'avait présenté lors de sa naissance en novembre 2009, c'est un musée d'œuvres pour enfants sur le net. Est-ce que vous faites toujours partie de cette aventure et est-ce que ça fonctionne ?
Ah ben moi, je faisais partie des gens qui ont soutenu l'initiative de Claude Ponty. Je faisais partie des cofondateurs. Après, c'est vrai que je ne suis pas du tout au courant. Enfin, je suis un peu tenu informé de ce qui se passe, mais c'est vrai que je le suis d'assez loin, quoi. Moi, je le suis parce que Claude Ponty m'a appelé un jour pour faire partie de l'aventure, j'ai voulu impulser avec lui la chose, mais j'ai pas été plus loin, quoi. Mm-hmm. En termes de suivi du projet, quoi. Il y a des gens qui s'en occupent et c'est un autre travail, quoi.
Bon, eh bien, parmi ces différentes activités, est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau titre d'ici peu, une nouvelle participation à une maison d'édition ? Est-ce que votre métier aux éditions du Rouergue, de directeur de collection, vous manque aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose que vous referiez ou pas ?
Oui, là, ça commence sérieusement à me manquer. j'aime toujours autant travailler avec les auteurs. Là, c'est vrai que le travail en termes de scénographie, permet aussi de raconter des histoires d'une autre manière, de travailler avec des auteurs, ça aide beaucoup. Travailler avec une maison d'édition, c'est pareil. Moi, j'ai quand même des contraintes énormes, c'est la liberté. Donc ça, je cherche un endroit compatible, ce qui n'est pas forcément évident. Après, en termes de projets, j'ai toujours des projets de livres, mais moi, pour l'instant, j'en vois tellement apparaître des livres et disparaître très rapidement que je me dis que je préfère les garder, les faire tranquillement, les défaire, les remonter, et puis les faire exister très longtemps ici avant de les envoyer sur le marché du livre qui aujourd'hui me laisse un peu perplexe, c'est vrai.
Oui, il y a une rapidité de rotation en librairie, une quantité d'ouvrages qui font que la visibilité de chacun d'entre eux et la qualité aussi, on est quand même sur un large éventail. Pardon ?
La durée de vie est très courte en librairie, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'arrivées de bouquins, et c'est vrai qu'on vit un peu un contresens historique. C'est-à-dire que le livre était fait pour faire durer les histoires. Et là, aujourd'hui, c'est un objet qui a une durée de vie trop limitée.
Alors, est-ce que vous nous préparez un nouveau titre ?
Ah oui, j'ai plusieurs titres. J'en ai un que j'ai présenté récemment à Marseille, d'ailleurs. Qui s'appelle Boucle d'or et les trois ours que j'ai réalisé juste à partir de dessins, de chiffres en fait et de nombres. Après j'en ai un autre avec Frédéric Bertrand aussi en projet. Puis un beaucoup plus grand qui est entre l'album et le roman, mais là sur lequel je vais de temps en temps aussi. J'attends, je m'y replonge et puis bon, j'ai le temps. En fait, à un moment, j'étais très impatient de faire exister les livres. Là, j'ai très patient, au contraire.
Et vous savourez cette période-là de gestation ?
Oui, parce que ça me permet aussi de bien réfléchir à où, comment les faire exister. Mm-hmm. Il n'est pas exclu que certains titres deviennent des films d'animation, d'ailleurs. Mm-hmm. Après, il y a plein de réflexions aujourd'hui sur... le support livre, sur le numérique, je suis très curieux de voir comment, y compris vis-à-vis du numérique, l'industrie, l'édition, on va dire, des livres va réagir. Mm-hmm. Très curieux de tout ça, mais c'est vrai que j'ai aujourd'hui tellement envie de lâcher mes livres dans la nature et que ce soit un objet aussi éphémère.
Olivier Douzou, je vous remercie beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, un artiste à suivre de près. Merci beaucoup, Olivier Douzou, de nous avoir consacré ce temps de parole et au plaisir.
Merci à vous.
Au revoir.
Un caillou dans la chaussure. Un caillou dans la chaussure.